Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations grâce à Mzati Masandi.
À la une de l'actualité, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a lancé ce vendredi les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la République, excepté les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Plus de 13 000 candidats sont concernés par ces rendez-vous à travers le pays. De multiples cas de tuerie et autres bavures sont enregistrés dans la ville de Bukavu depuis son occupation par le M23. La nuit dernière, des hommes armés ont tué deux personnes au quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda, pendant que dans plusieurs autres quartiers de la ville, des habitants ont passé la nuit sous les crépitements des balles. L'invité de la rédaction ce soir est Fabien Mayani, cadre du consortium Congo n'est pas à vendre. Il parle des déséquilibres dans l'AFENA 5 à la Convention sino-congolaise. Sa structure déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars américains pour l'État congolais. À toutes et à tous, bonsoir. Les préliminaires de l'examen d'État et du jury national du cycle court de l'édition 2025 ont débuté ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national, excepté les zones sous occupation rebelle. Selon les données de l'Inspection générale de l'éducation nationale, au moins 13 242 candidats répartis dans 259 centres prennent part pour les cycles longs, alors que 76 candidats sont inscrits dans 15 centres pour les cycles courts. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a choisi l'Institut de la Gombe 1 pour lancer officiellement ses épreuves nationales en présence de nombreuses autorités de son secteur, dont le ministre professeur de l'Éducation de Kinshasa et l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Pour elle, ce moment est un porteur d'espoir car le système éducatif national poursuit son chemin malgré les contextes difficiles. À cette occasion, Raissa Malou a exhorté les candidats à faire preuve de rigueur et de responsabilité tout au long de ces épreuves certificatives pour participer de manière efficiente au développement du pays.
Chers candidats, restez concentrés, faites preuve d'honnêteté intellectuelle et donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes non seulement les bâtisseurs de votre propre avenir, mais aussi les citoyens porteurs des valeurs qui feront rayonner notre nation.
Elle a ainsi exprimé la volonté du gouvernement d'organiser une session spéciale pour récupérer les candidats se trouvant dans des zones sous occupation rebelle.
L'État, conscient de son devoir, mettra en place une session spéciale afin qu'aucun candidat ne soit privé à son droit à l'éducation.
Il faut noter que 17 autres candidats passent ces examens dans les deux centres hors frontières situés en Angola, précisément à Cabinda et à Luanda.
Blaise Ndongala Mayanda et puis des dizaines de candidats autodidactes du Nord Kivu ne participent pas à cette épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 lancé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. En cause, vous le savez, les reports par les gouvernements congolais de cette épreuve. Ces derniers évoquent les raisons sécuritaires qui ne permettent pas d'organiser ces rendez-vous. Plusieurs entités au Nord Kivu étant occupées par les rebelles du M23. L'Association nationale des parents du Congo, ANAPECO, salue cette décision qu'elle qualifie de responsable et démurie. Elle déplore cependant le fait que les enfants soient victimes de cette situation. Elle exhorte les autorités nationales à tout mettre en œuvre pour que cette année ne soit pas une année blanche au Nord Kivu. Le gouvernement annonce cependant une session spéciale pour les candidats finalistes du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3. Et du côté du Sud Kivu, les écoles ne fonctionnent pas depuis 3 semaines dans plusieurs entités du territoire d'Uvira. C'est à la suite de la psychose observée dans la zone depuis la prise de Kamanyola dans les territoires du Walungu par les rebelles du M23. La société civile d'Uvira redoute que cette année soit déclarée blanche pour des milliers d'élèves. Comme annoncé au sommaire, la ville de Bukavu demeure instable sur le plan sécuritaire depuis son occupation par le M23 soutenu par le Rwanda. Des hommes armés non autrement identifiés tuent, volent, violent et pillent. La nuit d'hier, ces malfrats ont tué 2 personnes et fait plusieurs blessés parmi la population civile au quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda. Au même moment, des crépitements de balles ont retenti dans plusieurs autres quartiers dans les communes d'Ibanda, Kadutu et Bagira. Le chef de quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, raconte ce qui s'est passé dans son entité.
C'est avec douleur que je peux m'exprimer ces jours. Hier, les voleurs mais armés ont sillonné nos avenues. 17 maisons ont été visitées. Ils ont arraché la vie à la fille qui devrait se marier incessamment. Son frère de 20 ans, en état critique, à l'hôpital maintenant. À l'heure où nous parlons, il est dans la salle d'urgence. Nous demandons à la population de nous organiser pour désorganiser ces malfrats qui nous endeuillent du jour au jour. demandant aux autorités d'occuper les postes de police qui sont restés inoccupés jusque maintenant et aussi organiser des patrouilles avec nos jeunes volontaires qui nous facilitaient déjà la tâche et nous permettre encore d'utiliser les radios Motorola qui nous aidaient en cas d'alerte aux personnes en détresse.
Par ailleurs, en Ituri, les récentes atrocités des groupes armés dans les territoires de Djougou ont brisé la cohésion sociale entre les communautés dans certaines localités du territoire de Djougou. De nombreux habitants et commerçants sont cloisonnés dans leurs entités par peur de tomber dans des embuscades des hommes armés. Comme conséquence, les conditions de vie sont difficiles pour la majorité de la population qui n'accède pas aux champs et aux marchés communautaires. Les opérateurs économiques ont également de la peine à se ravitailler en marchandises. Radio Kapi Bounia, Isaac Raymond.
Les habitants de plusieurs villages dans les territoires des Djougou ne se fréquentent pas depuis la série d'attaques qui a fait plus de 60 morts il y a 3 semaines. Certains centres se trouvent ainsi enclavés, Ar et Fata qui est en secteur de Walindu Dzatsi, Lindu, Laoudjo, Boulé, Drodro dans les Baïma Badjere et Baïma Nord. L'accès aux champs est difficile par peur des hommes armés. Même les marchés communautaires qui accueillaient des milliers de gens de différentes ethnies sont quasi déserts. La vie est devenue intenable pour la majorité de la population qui sollicite l'intervention des autorités en vue de renforcer la habitation pacifique.
Ces derniers jours ne sont pas encore arrivés à Fataki. Suite au drame survenu récemment, nous avons peur. Nous voulons la paix. Nous sommes un.
De nombreux commerçants qui achetaient des marchandises à Bounia, chef-lieu de la province, au centre commercial d'Endrele dans les territoires de Maagi ou en Ouganda, se disent bloqués depuis un mois. Certains envoient de l'argent à travers des maisons de messagerie financière à leurs collègues pour leur faciliter les achats, mais avec beaucoup de risques de se faire escroquer.
Nous achetions des marchandises dans des entités proches. Nous ne pouvons plus y accéder. Le commerce est devenu difficile. Nous plaidons pour la libre circulation.
Les chefs coutumiers des Djougou sensibilisent souvent leurs administrés au vivre ensemble. Mais leurs efforts sont souvent affaiblis par les violences des groupes armés à caractère communautaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que la MEFEC, mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, convie quiconque à des renseignements ou toute autre information relative aux allégations de violations du droit international humanitaire de les lui faire parvenir. Ces renseignements concernent également ceux touchant les violations sexuelles et basées sur le genre commises lors des hostilités ayant abouti à l'occupation des villes de Goma et Bukavu dans les nord et sud Kivu. Billy Van Lutumba nous en parle.
Outre les individus, cet appel à contribution est adressé aussi à tout groupe ou organisation disposant des informations ou documents pertinents à même de permettre l'élaboration des rapports publics de la MEFEC, y compris ceux destinés au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale. Avec le consentement des informateurs ou renseignants, elles pourront également être communiquées à des mécanismes de redevabilité, notamment dans le cadre d'enquêtes criminelles et d'autres procédures judiciaires. La MEFEC souhaite obtenir des informations sur les principaux responsables des violations, y compris l'identité des individus, des organisations ou des groupes, ainsi que sur l'identité des victimes et des témoins avec lesquels la mission d'établissement des faits pourrait s'entretenir. Ceci implique une question de sécurité pour toutes ces sources d'informations. À ce sujet justement, la MEFEC répond qu'elle y attache une importance primordiale, notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et du principe « ne pas nuire, ne pas mettre en danger la vie, la sécurité, la liberté et le bien-être des victimes, des témoins et des autres personnes qui coopèrent avec elle. L'identité des personnes coopérantes et l'utilisation des informations fournies seront strictement soumises à leur consentement éclairé, précise la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Quant à la procédure de soumission des renseignements, priez à consulter toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.
Santé. Bien que l'épidémie de choléra baisse d'intensité dans la ville d'Uvira au sud Kivu, la situation demeure critique dans des zones de santé environnantes de la Ruzizi. Médecins sans frontières, MSF, fait remarquer que la cité de Sangé enregistre à elle seule une centaine de cas de choléra. MSF soutient le ministère de la Santé dans la riposte contre cette épidémie dans les zones de santé d'Uvira et Ruzizi. Edwige Bagula, coordonnatrice médicale pour Médecins sans frontières, indique que le manque d'accès à l'eau potable accélère la propagation du choléra dans ces zones de santé. Et les deux micros des Radio Capi.
Nous avons déjà effectué une première donation des intrants de prise en charge aux différents centres de traitement de choléra, les CTC d'Uvira, les CTC de Sangé et celui de Kamagnola.
Ces donations que nous avons faites, vraiment, elles sont insuffisantes. Et pour nous, des prochaines donations s'avèrent diligentes en plus des actions de prévention que MSF voudrait bien mettre en œuvre pour couper rapidement la chaîne de transmission. Néanmoins, avec la situation sécuritaire complexe que traverse la province du Sud-Kivu pour le moment, il n'est pas vraiment facile d'acheminer de l'aide aux populations en besoin depuis la coordination des Médecins sans frontières à Bukavu. Ceci affecte notre rapidité traditionnelle en tant que Médecins sans frontières à mettre en œuvre les interventions urgentes pour soulager la souffrance et ainsi prendre en charge ses bénéficiaires.
Revenons ici à Kinshasa, la capitale, où la clinique Magnolia, située sur le boulevard du 30 juin au numéro 1525, organise sa première campagne gynécologique de consultation et échographie gratuite. Cette campagne dédiée aux femmes s'organise du 3 au 31 mars dans le cadre du mois de la femme. Selon la fondatrice de cette structure sanitaire, cette campagne est destinée à toute catégorie de femmes afin de leur permettre de connaître leur état sanitaire et vivre en bonne santé, nous dit Nancy Atambo.
Le revenu insuffisant empêche de nombreuses femmes à avoir accès aux services de santé de base dont elles ont besoin, notamment en gynécologie. Voilà pourquoi la clinique Magnolia a ouvert ses portes à toutes les femmes afin de leur permettre de bénéficier des soins appropriés. Victoria Babandisha explique le sens de cette campagne.
Nous sommes dans le mois de la femme. La clinique Magnolia a pensé à donner l'opportunité aux femmes pour qu'elles viennent faire leur consultation en même temps. On offre aussi des parce que bon, on a constaté que les femmes jeunes ou un peu plus âgées représentent beaucoup de maladies et les gens s'ignorent.
De son côté, le médecin gynécologue a expliqué quelques diagnostics trouvés auprès de ses patientes. Docteur Michel Mangala.
La plupart des femmes que nous consultons ici, elles ont des problèmes de conception, elles ont des problèmes de masse au niveau abdominal et ces masses, ce sont beaucoup plus des myomes, des kystes et il y a aussi des infections génitales.
Plusieurs femmes ont témoigné du bénéfice de cette gratuité.
Ils sont en train d'aider toutes les femmes. Des frais qu'on devait payer normalement, que ces frais-là qu'on n'arrive pas à les payer, qu'on puisse bénéficier en fait de la gratuité.
Les organisateurs de cette campagne lancent un appel aux femmes de saisir cette opportunité qui va se clôturer à la fin de ce mois dédié aux femmes.
Cette autre nouvelle sur la radio de la paix. Bientôt, la Société nationale d'électricité SNEL Kwilu va basculer du système de paiement des factures d'électricité après consommation en système de prépaiement dans la ville de Bandundu. Déjà, un lot important des compteurs prépayés et autres matériels est disponible et la SNEL va procéder à l'installation de ses premiers compteurs chez ses abonnés. Cette annonce a été faite hier par le directeur provincial de la SNEL Kwilu, l'ingénieur Prosper Bakukuwanza, lors d'un point de presse organisé à Bandunduville. Il invite la population de Bandundu à se préparer pour accueillir ce système de prépaiement qui, selon lui, est très avantageux tant pour les clients que pour la SNEL. Les propos de l'ingénieur Prosper Bakukuwanza sont sélectionnés par Irène Mbomaluzolo.
La SNEL est en train de passer au prépaiement dans la ville de Bandundu. Je crois que dans les très prochains jours, nous allons commencer à implanter le premier compteur et ça sera de façon progressive puisque bon, ça demande vraiment un grand investissement. Nous sommes en train d'assainir les réseaux quant à ça. Nous sommes en train d'implanter de nouvelles cabines. Ce système permettra à ce que chaque client puisse gérer soi-même sa consommation. Et ça nous permettra, nous, au niveau de la SNEL, d'économiser de l'énergie et de faire respirer nos équipements, d'éviter beaucoup d'avaries, de transfert, de pans de câbles. Donc, c'est vraiment un bon système. Je crois que les clients vont le constater. C'est une décision qui est prise au niveau du gouvernement qui a voulu que les clients puissent payer ce qu'ils consomment réellement. Et puisqu'avec le système de prépaiement, les gens vont gérer rationnellement l'électricité. Quelqu'un achète peut-être ce kilowattheure de 5000. Il va gérer ça de soi-même. Nous n'allons plus avoir les systèmes. Non, non, voilà. Moi, je n'avais pas utilisé l'électricité. On est venu me facturer. Non. Tout client qui a un abonnement SNEL aura droit à un compteur gratuitement.
Actualité internationale.
Un hélicoptère des Nations Unies qui menait une opération d'évacuation des soldats sud-soudanais à Nasir dans l'état du Haut-Nil a subi des tirs aujourd'hui avec pour conséquence la mort d'un membre d'équipage et des sévères blessures pour deux autres membres, annonce dans un communiqué la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, UNMISS, ce vendredi 7 mars. De plus, plusieurs membres de l'armée sud-soudanaise, dont un général blessé, ont été tués durant la tentative par l'UNMISS de les extraire de la zone, ajoute les textes. L'UNMISS précise que cette opération avait été organisée à la demande de toutes les parties, sans donner plus de détails sur celle-ci. Et puis, plus de 180 personnes sont sont portés disparus après le naufrage de 4 embarcations transportant des migrants au large du Yémen et de Djibouti, annonce ce vendredi l'agence de l'ONU pour les migrations OIM, ajoutant ne pas avoir pour l'heure d'informations sur les nationalités des personnes disparues.
L'invité.
Le consortium Congo n'est pas à vendre relève les déséquilibres dans l'avenant 5 à la convention sino-congolaise. Dans une interview accordée à Radio Okapi, un des cadres de cette structure, Fabien Mayani, déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars américains pour l'État congolais. Pour éviter de nouvelles pertes, il propose que les institutions du pays, dont la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et le comité exécutif des litiers RDC, prennent des mesures drastiques. Fabien Mayani s'entretient avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour monsieur Fabien Mayani.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle analyse faites-vous de l'avenant 5 à la convention sino-congolaise une année après sa signature?
Cet avenant pose énormément de problèmes parce qu'effectivement la convention de 2008 avait été signée dans l'objectif de développer les infrastructures en RDC et aussi développer un projet minier. Mais ce que nous constatons, c'est que l'avenant numéro 5 a lieu et place de rééquilibrer les intérêts des partis, notamment les intérêts de la RDC, l'avenant crée beaucoup de problèmes, notamment le fait que l'avenant conditionne le financement des infrastructures par le prix du cuivre sur le marché international. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, si les prix du cuivre baissent, la RDC n'aura pas de financement pour les infrastructures. Et ça, ça nous étonne que des pareilles clauses soient contenues dans l'avenant 5. D'autre part, nous avons constaté que dans l'avenant 5, on ne parle pas du cobalt, qui est l'un des minéraux clés aujourd'hui dans la transition mondiale vers les énergies vertes, et on ne comprend pas comment le cobalt n'est pas pris en compte dans les calculs des financements des fonds à verser à la RDC pour les financements des infrastructures. Pour nous, l'avenant 5 pose plus de problèmes que l'accord initial lui-même.
Où est-ce que vous situez la cause des déséquilibres relevés dans cet avenant?
Oui, parmi les causes, d'après nos analyses, il n'y a pas une préparation suffisante de la renégociation du côté de la RDC. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'après nous, Congo n'est pas à vendre. Le gouvernement congolais aurait dû préalablement procéder à des audits, à des évaluations du projet Sicomine aujourd'hui pour savoir exactement combien on a investi dans les infrastructures et aussi auditer les infrastructures réalisées. Le volet minier également, auditer l'investissement qui a été réalisé dans le volet minier, auditer, avoir une idée plus claire sur la production, sur les bénéfices, sur les revenus générés. Tout ça, ça n'a pas été fait. La question de la préparation est très importante dans la négociation, des contrats miniers. Malheureusement, nous n'avons pas vu une bonne préparation du côté du gouvernement congolais. Un autre élément que nous avons noté, c'est comment on a mis en place la commission de renégociation. Est-ce que on a défini de manière claire les termes de référence de la commission? C'était quoi que la commission de renégociation devait faire? À ce jour, il n'existe pas un document clair du gouvernement qui détermine les termes de référence qui devraient normalement déterminer le travail à faire par la commission. Et pour nous, le premier travail à faire, c'était d'auditer le projet minier de manière exhaustive. Et la bonne manière de le faire, le gouvernement congolais, d'après nous, aurait dû recruter un cabinet spécialisé qui fait l'audit du projet et qui donne les résultats, et cela permettrait à la RDC d'avoir des éléments factuels.
Dans votre note, le consortium Congo n'est pas à vendre parle de plus de 30 millions de manques à gagner en l'espace d'une année. Alors qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais pour rectifier les tirs?
La première des choses que nous proposons au gouvernement congolais, c'est d'abord d'auditer le projet Sicomine, le volet infrastructure et les volets miniers, pour savoir exactement combien on a investi, la qualité des infrastructures qui ont été réalisées, est-ce que les montants qui ont été déclarés représentent réellement les montants qui ont été investis dans ces infrastructures. L'autre chose que nous recommandons vivement au gouvernement congolais, c'est de mettre fin au modèle de la convention sino-congolaise, parce que cette convention a démontré ses limites. Ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est de soumettre le projet Sicomine au code minier de la République démocratique du Congo, tel qu'il a été révisé en mars 2018. de sorte que la SICOMINE paye les impôts et taxes comme tous les autres projets miniers, et ces impôts et taxes vont financer les infrastructures. Comment on peut utiliser juste moins de milliards pendant 16 ans pour un budget initial prévu de 3 milliards de dollars? Donc, nous pensons qu'il faut appliquer le code minier de la République démocratique du Congo. La SICOMINE va commencer à payer les impôts et taxes et l'État va utiliser ces taxes-là pour financer les infrastructures.
Monsieur Fabien Mayani, nous vous disons merci.
Merci.
19h20 à Kalima, dans la province du Maniema. Ainsi prend fin ces radio-journales, coordonnées par Jude Mister Bilanda et supervisées par Alain Irung. La mise en onde de Pierre Diassinois. Merci pour votre fidélité.